Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ravive, dans l'émission Storytelling, présentée par Byron et Sarabella. Salut Byron.
Salut Sarabella, salut à tous.
Storytelling, c'est l'émission qui raconte des histoires authentiques.
Des anecdotes véridiques.
Du vécu, des tranches de vie.
De l'insoupçonné à l'insoupçonnable.
De la story et du feeling,
c'est Storytelling.
Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui du rappeur DMX. Byron, quel morceau de son répertoire as-tu choisi ?
Eh bien, j'ai choisi le morceau X Gone Give It To Ya, DMX, maintenant sur Radio Ravive. Don't get it twisted, this rap is mine, motherfucker. What you heard, it's what you hearing. What you hearing, it's what you hearing. Listen, it's what you hearing. Listen, it's what you hearing. Listen, X gon' give it to ya. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. Hit the non-stop, pop out, I'm stainless steel. No hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. That's on a life day, I'm getting down, down. Like it said freeze. But won't be the one ending up on his knees. Please, if the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way. Motherfuckers, we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall, then we let it pop. Don't let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out, wantin' something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever you gon' do. I'm a wolf in sheep clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these kids. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. But they don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Yo, where am I? Dad, I know I got 'em down in the greens. Give 'em love and they give it back. Talk too much for too long. What? Don't give up, you're too strong. What? Love to the wild, wild hunters. Yeah. Shout out to that Dennis. Come on. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. We gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya.
Trop bonne énergie ce morceau. Son nom n'est pas forcément connu du grand public. Peux-tu nous dire qui il est exactement, DMX ?
Alors DMX, c'est un rappeur américain déjà qui est né à New York et qui a grandi dans le Bronx et le Queens. Alors, pourquoi je cite ces deux quartiers ? En fait, ce sont des quartiers de New York. Ce sont des quartiers de New York qui sont originaires du hip-hop. Il y a eu beaucoup, beaucoup, en fait, de rappeurs qui sont nés dans ces quartiers-là. DMX a signé à l'époque sur Def Jam, qui est certainement le plus grand label à ce jour de hip-hop du monde. Pourquoi, en fait, Def Jam est extrêmement connu ? C'est parce qu'il, à l'époque, a signé quasiment en même temps qu'un rappeur qui est extrêmement connu aujourd'hui, qui s'appelle Jay-Z.
DMX, il a vraiment cette particularité en plus. Bon, il a une voix, on l'a entendu, une voix. Il est très fan des chiens, et notamment des chiens de combat, donc, et des pitbulls. Et je crois qu'il est même, à un moment donné, il en a beaucoup vendu. Donc, il avait cette image, en fait, toujours très, très street. C'était vraiment la rue, le Queens, le Bronx. Ce sont les origines, vraiment, encore une fois, du rap tel que nous, le rap américain, nous est parvenu, en fait, en France. C'est un rappeur qui avait à la fois beaucoup d'énergie dans sa manière de s'exprimer, mais en même temps, qui a une écriture aussi qui est très forte. Et des prises de position très puissantes. Donc c'est toujours pareil, hein. On en a déjà parlé, les artistes du hip-hop et notamment du rap américain peuvent arriver avec une attitude effectivement très, très rude, mais en même temps, ils arrivent toujours à montrer de la profondeur dans leur écriture.
Ok, j'imagine que tu rêvais de le rencontrer. Est-ce que cela s'est produit un jour ?
C'est fou ce que je vais raconter là, puisque on parle encore une fois d'un rappeur qui est à l'origine du rap américain, qui est une légende du rap américain, du rap, du hip-hop tout court en fait. Donc oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer.
Ah.
Je vais vous raconter l'histoire, elle est folle, comme toujours. En réalité, ça s'est passé encore une fois par des personnes qui vivent à côté de Marseille. Le lien n'était pas du tout évident, évidemment. Alors voilà, il se trouve que je connais très très bien en fait un imprimeur qui était à Aubagne, qui s'appelle Gilles. Je donnerai que son prénom pour pas donner son nom de famille, pour pas qu'on le dévoile trop non plus. Et Gilles était associé, alors il était imprimeur, mais à la fois il était aussi fan de musique, et donc il était associé sur une seule de labels de musique aussi. Il produisait de la musique. Et il était associé sur ce label-là avec quelqu'un, là je peux citer son nom par contre, qui s'appelle Pascal Cobé. Pascal Cobé est un producteur de musique en France et en Angleterre, qui a fait beaucoup en fait de production dans l'ombre. C'était un homme de l'ombre en fait, vraiment, Pascal Cobé. Il a eu pas mal de succès d'ailleurs à son actif. Et il se trouve que Pascal Cobé avait un rêve, comme beaucoup de gens en réalité, beaucoup de gens de la musique notamment, c'était de faire du cinéma. Et Pascal Cobé, et là ça, on pourrait presque faire une émission entière sur Pascal Cobé parce qu'elle est folle son histoire à lui. Il a décidé un jour, après avoir fait pas mal de succès effectivement en France, en Angleterre, dans la musique et dans la production, d'écrire un film dans lequel il se donnerait le rôle principal et surtout il jouerait donc avec, alors là je vais les citer, Tony D'Amario qui nous a quitté malheureusement, qui était l'acteur qui jouait dans La Vérité si je mens, vous vous rappelez, qui faisait l'homme de main,
oui.
À un moment donné, coupe, la scène coupe, c'est
ouais,
lui,
ouais,
Tony
voit.
D'Amario, qui malheureusement nous a quitté peu de temps après le film. Il y avait aussi quand même David Carradine, c'était celui qui faisait la série Kung Fu, je sais pas si vous vous souvenez de cette série extraordinaire. Il y avait aussi Monica Cruz, qui est la sœur, en fait, vraiment, de Penelope Cruz.
Oui.
Il y avait aussi Tony Wong, qui, lui, faisait Tigre et Dragon. Donc, c'est un ancien film aussi. Et le rappeur DMX, justement. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans votre chambre, vous écrivez un film dans lequel vous vous dites « J'aimerais avoir tous ces acteurs-là autour de moi, écrire un film que je vais non seulement écrire, produire, réaliser, et dans lequel je vais me donner le rôle principal au milieu de tous ces gens-là. » Eh bien, il l'a fait. Voilà, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il l'a fait. Alors en fait, moi je connais très bien Gilles, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, et on se connaissait assez, puisque c'était quelqu'un qui sortait beaucoup aussi, qui était fan de musique, donc on se croisait régulièrement dans des soirées privées et dans des concerts. Et un jour, il m'appelle en fait en me disant, écoute, tu sais quoi, j'étais sur le tournage du film de Pascal Cobé, et je pense que je vais te parler de quelqu'un que peut-être que tu connais. J'étais avec le rappeur DMX. Et là, j'ai dit, c'est complètement dingue. Est-ce que tu sais qui est DMX ? Il m'a dit, oui, je sais que c'est une légende. Mais je n'imaginais pas à ce point-là, en fait, en réalité. Parce que DMX était aussi acteur. Il a fait une carrière, il a mené conjointement une carrière de musicien, de rappeur et aussi d'acteur, comme beaucoup aux États-Unis. Et là, la chose la plus folle s'est produite. C'est que je lui ai dit, bon, ben génial, j'imagine que vous avez tourné. Où est-ce que vous avez tourné ? Ils ont tourné à Pékin. Donc, ils étaient super contents du tournage, super contents. Et puis, un jour, il m'a dit, tu sais, il est prévu qu'il descende à Marseille pour faire une petite interview ou une petite conférence de presse autour du film. Et là, j'ai dit, DMX à Marseille, c'est complètement dingue.
Complètement dingue.
Et c'est ce qui s'est passé. Lors d'une soirée privée, il est descendu effectivement. Et j'étais parmi les gens donc, qui ont pu le rencontrer. Je l'ai rencontré d'une manière très succincte au début. Il faut savoir une chose, c'est que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a une image très forte, très rude. Donc forcément, vous imaginez bien que quand il se déplace avec du garde du corps. Voilà, c'est pas si facile de l'approcher.
Évidemment.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai réussi quand même à l'approcher. À l'époque, il y avait les CD. J'avais un CD, évidemment, que j'avais prévu déjà de lui remettre. Et en fait, quand je lui ai remis, déjà, il a souri. Il avait un immense sourire, DMX. Il avait l'image de quelqu'un de très dur, mais en fait...
ça rassure un peu.
Ça rassure grave de le voir comme ça. Et en fait, en loge, quand je lui ai tendu mon CD, il m'a dit quelque chose en anglais que je n'avais pas tout à fait compris, mais on me l'a traduit justement en instantané. Il m'a dit cette phrase qui est magique. Il m'a dit, écoute, tu sais, je vais l'écouter. Crois-moi, je vais l'écouter parce que ça veut dire que si tu l'as préparé, c'est que tu as travaillé. Et je respecte le travail. Et il a dit, tu sais, si je l'écoute, moi, ça veut dire qu'en fait, ta musique, elle va exister. Parce que de la musique qu'on écoute, c'est de la musique qui existe. Et ça m'a marqué, venant d'une personne aussi, on va dire, aussi célèbre et aussi talentueuse que lui. Donc ça, c'était ma première rencontre.
C'est vraiment plaisir
d'entendre ça. Effectivement, c'était ma première rencontre avec lui. Et comme je vous dis encore une fois, la rencontre succincte, mais avec des mots tellement forts que ça m'a marqué, évidemment.
Malheureusement, DMX nous a quittés le 21 avril 2021. Et qu'est-ce que tu retiens de lui?
Justement, ce que je retiens de lui, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance, juste quelques temps après, deux jours après, de pouvoir le rencontrer à nouveau, mais cette fois-ci, d'une manière un peu plus, j'allais dire, intime, entre guillemets, puisque là, je me suis retrouvé avec lui, avec sa femme, avec la nounou de sa petite fille. On a partagé un dîner et on a eu l'occasion vraiment de cette fois-ci de se parler. Il y a quelque chose que j'ai retenu de lui, c'est que toute l'image que j'avais vue, qui pouvait faire presque peur en réalité, c'était du cinéma, c'était du show. Et j'ai compris en fait l'interface entre ce que font les Américains. Ils sont extrêmement forts pour ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ils savent fabriquer des personnages.
Mais oui.
Ils savent nous donner une image. Alors attention, je précise une chose importante, c'est que je ne dis pas que DMX était un enfant de cœur. Je dis ça parce que si vous tapez DMX sur Google et que vous allez voir effectivement qu'il a eu des affaires judiciaires, qu'il a fait de la prison, qu'il a eu effectivement tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie, il y a eu effectivement des faits d'armes quand même autour de tout ça. Mais ce que j'ai rencontré en tout cas comme personnage était une personne humble, était une personne souriante, était une personne énormément naturelle en réalité.
Tu l'as surtout vu dans son milieu familial.
C'est ça aussi, effectivement, je crois qu'il y a ça qui a joué aussi. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui d'une manière totalement apaisée, entre guillemets, sans regard sur nous, sans journaliste évidemment, sans, on va dire, tout cet abattage médiatique des fois qu'il y a autour des artistes américains. Voilà, c'était très fort comme dîner. Vous savez, quand vous dînez avec une légende de la musique que vous affectionnez le plus, bon ben, voilà, c'est un peu magique en fait ce qui se passe à ce moment-là. Et je retiens une phrase de sa femme. Quand je lui ai dit que j'adorerais... découvrir ou redécouvrir New York, elle m'a dit « Tu es le bienvenu chez nous ». Qui aurait dit qu'un jour, la femme de DMX allait m'inviter chez elle?
C'est sûr. Byron, j'imagine que tu as une anecdote vécue avec lui. Tu nous la racontes?
Tout à fait. Il s'est passé quelque chose, justement, peu de temps après. En fait, DMX faisait des allers-retours entre les États-Unis et il venait souvent dans le sud de la France. Et un jour, alors que j'étais au Dôme de Marseille, et que j'allais performer pour une après-midi en fait avec un public plutôt jeune. Voilà, c'était un truc qui s'appelle Planète Jeune, voilà, je peux le citer. J'ai un coup de fil en fait de Gilles qui me dit, écoute, il y a donc Pascal qui est justement dans le sud et qui est avec DMX. Et on aimerait bien se faire une petite virée au Festival de Cannes. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous?
Sympa.
J'ai dit ben non, j'ai piscine, j'ai aquaponé, je peux pas venir. Non, j'ai décidé évidemment
de changer tes plans.
Je dois changer tous mes plans effectivement et d'aller donc les rejoindre après mon concert qui était un concert d'après-midi, donc ça va, donc je pouvais effectivement les rejoindre. Alors pour la petite histoire, encore une fois, j'ai appelé un ami à moi qui était sur Cannes, qui est venu me chercher d'ailleurs, je le remercie, Fred, grosse dédicace, qui est venu en voiture me chercher parce que je voulais pas forcément monter dans la limousine avec eux. Ça c'est pour des raisons que vous comprendrez peut-être un petit petit peu, je vais pas trop en parler, mais j'avais pas trop envie d'être au milieu de toutes ces substances bizarres.
On comprend.
Donc j'ai décidé en fait de me retrouver vraiment, puisque je ne fume pas et je ne bois pas, donc j'ai décidé de voyager safe, comme on dit. Quand je suis arrivé, en fait, on avait rendez-vous devant une boîte de nuit qui s'appelle le Gotha à Cannes pendant le festival. Il y avait la soirée qui était initiée par Karl Lagerfeld, donc c'était une soirée évidemment où il y avait beaucoup beaucoup de monde. Quand la limousine est arrivée devant, je me rappelle m'être dit ça va être très difficile pour moi d'expliquer que je suis avec le rappeur DMX et si et ça. Et en fait, quand il est sorti de la voiture, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a sauté dans les bras devant la sécurité.
Ah bon ?
Devant la sécurité. Donc c'était voilà, c'était j'avais mon ticket d'entrée quoi à ce moment-là. Donc on était quelques-uns effectivement, on est tous rentrés à l'intérieur. On a passé effectivement une partie de la soirée. Et il s'est passé quelque chose d'encore un peu fou pendant cette soirée, c'est que il y a le garde du corps en fait de DMX qui s'appelait Cameron qui nous a dit écoutez en anglais, qui nous a dit écoutez, je pense que la soirée va pas se terminer ici, on va aller ailleurs. Et là, nous voici repartis en fait, sans savoir où on allait. La limousine arrive, nous on récupère notre voiture, et quand on récupère notre voiture, il y a quelqu'un qui nous suit, qui est avec nous, qui monte dans la voiture avec nous. Donc on se demande qui c'est. Il y a un gars grand avec une queue de cheval, costaud, et en fait il y a un gars qui s'appelait Richard, donc qui était français, hein, puisqu'on parlait en français avec lui. Et là on lui dit, est-ce que tu peux nous dire toi où on va? Il dit, ben oui, en fait on va chez mon client. Et j'ai dit, c'est qui ton client? Et il a dit, bah, vous verrez quand on arrivera sur place, je ne peux pas le dévoiler. Et là, on arrive donc sur la terrasse du 314. Le 314 est un hôtel casino à Cannes.
Magnifique.
Exactement, qui a une très belle terrasse. Et pendant le festival de Cannes, qui était très prisé par les célébrités effectivement du monde entier. Et donc, on arrive sur cette terrasse. Et là, je découvre avec qui on avait rendez-vous. On avait rendez-vous avec Mickey Rourke.
Wow.
Donc, l'acteur qui était là à notre table, donc c'était un peu dingue quoi, de l'avoir avec nous, de pouvoir le voir en vrai, quand même. Mickey Rourke est un des plus grands acteurs américains, en plus très atypique, encore une fois, c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, j'allais dire, qui se prête au jeu de la célébrité, qui se mélange un petit peu aux gens, et là c'était fou de le voir. Il s'est passé quelque chose ensuite, c'est que ben, DMX a fait un malaise, il a fait je crois même une crise d'asthme, je crois pour être plus précis, et en fait on s'est quitté à ce moment-là, et il devait venir en concert à Paris. Et on s'est fait un hug à l'américaine, c'est-à-dire qu'on s'est serré très fort dans les bras. Et quand on s'est serré très fort dans les bras, il m'a dit « See you in Paris ». Et malheureusement, c'est la dernière fois que je l'ai vu, et c'est la dernière parole que j'ai entendue de sa bouche, puisque malheureusement, quelques temps plus tard, non seulement il n'est pas venu à Paris, et d'ailleurs ça a fait un scandale, parce qu'il a raté l'avion, ou je sais pas, il avait d'autres problèmes. Malheureusement, après, il a eu des ennuis de santé, puis des ennuis judiciaires, puis des ennuis de santé à nouveau, et malheureusement, ces derniers ennuis de santé l'ont tué. Donc voilà, je garde ce souvenir de See You in Paris, et qu'il n'est jamais venu. Mais en tout cas, je reste encore une fois complètement sous le choc et sous le charme, on va dire, les deux.
Oui.
De son départ, évidemment, et aussi de cette rencontre avec, comme je l'ai dit et comme je l'ai écrit, avec une des plus grandes légendes du hip-hop américain.
Super Byron, bah écoute, merci pour toutes ces belles histoires et ces belles anecdotes. On se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Salut à tous et salut Byron.
Salut Sarabella, salut à tous et rendez-vous prochainement sur Storytelling.
Au revoir. Plus près de vous.